VOA Afrique, les infos. À Washington.
Cher Romain Dorcil, qui vous remercie de votre fidélité. Dans quelques minutes, le magazine Au Féminin, préparé et présenté par Nathalie Barge. Mais en attendant, un résumé des principales nouvelles du monde. Crise politico-militaire au Burundi. L'ONU exhorte le gouvernement à désarmer les Imbonerakure, milice de l'organisation de jeunesse du parti au pouvoir. Devant le Conseil de sécurité, le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme a déclaré qu'il s'agissait d'éviter une explosion de violence meurtrière. D'après Zeid Raad al-Hussein, les forces de sécurité et les milices ont tué des dizaines de manifestants et de défenseurs des droits de l'homme en 2 mois au Burundi. À quelques jours de l'élection présidentielle, prévue le 15 juillet, lors de laquelle le président sortant Pierre Nkurunziza briguera un troisième mandat controversé, les Burundais semblent se préparer à une explosion de violence similaire à celle qui ont si souvent ravagé le pays, a-t-il averti. En Ouganda, la police a arrêté 2 futurs candidats à la présidentielle, parmi eux l'ancien premier ministre Amama Mbabazi, qui se présente contre le président Yoweri Museveni. Les États-Unis ont sévèrement critiqué les dirigeants politiques du Soudan du Sud pour la reprise de la guerre civile, alors que le pays fête ce jeudi le 4e anniversaire de son indépendance. Susan Rice, la conseillère à la sécurité nationale du président américain Barack Obama, en a imputé la responsabilité au président sud-soudanais Salva Kiir et à l'ancien vice-président et actuel chef des rebelles Riek Machar. L'armée nigériane dit avoir arrêté le cerveau des attentats qui ont fait des dizaines de morts récemment. Selon le ministère nigérian de la Défense, le suspect a été interpellé en compagnie de 2 autres individus à un point de contrôle à Gombe, près du bastion de Boko Haram. Au Burkina Faso, le président de la transition, Michel Kafando, devrait se prononcer ce soir sur la crise politico-militaire dans son pays. Hier, il a eu des consultations avec son premier ministre, Yacouba Isaac Zida, alors que des rumeurs font état de tensions entre ces 2 leaders. Détention d'activistes de la société civile en République démocratique du Congo, le Parlement européen demande la libération de Fred Bauma et Yves Makwambala, arrêtés mi-mars à Kinshasa. Les eurodéputés accusent le gouvernement congolais de chercher à anéantir les activistes et les organisations militantes et dénoncent les tentatives permanentes de limitation de la liberté d'expression en République démocratique du Congo. Les négociateurs sur le nucléaire iranien travaillent d'arrache-pied en vue d'un accord de dernière minute après avoir à 2 reprises prolongé leur propre délai. Les puissances mondiales et l'Iran ont jusqu'à demain pour produire un document expliquant entre autres comment se fera la levée des sanctions internationales et l'ampleur de la vérification des activités nucléaires de Téhéran. Voilà pour ce résumé des nouvelles du monde à Washington. Ici chez Rubin Dorcil et comme annoncé dans un instant, le magazine au féminin.
Le magazine féminin de VOA Afrique. Les Nations Unies estiment à environ 120 millions le nombre d'enfants définis comme enfants vivant dans la rue. Chères auditrices et auditeurs, j'espère que vous allez bien. C'est Nathalie Barge avec vous. Dans cette émission interactive, vous avez la parole comme d'habitude. Alors, ces enfants sont environ 30 millions en Afrique, 30 millions en Asie et 60 millions en Amérique latine. Des chiffres un peu gonflés, certes, reconnaissent eux-mêmes les onusiens. Mais l'on comprend dans cette catégorie les enfants dans la rue, les enfants de la rue, les enfants à la rue et bien d'autres catégories encore. Alors, plusieurs études montrent que le phénomène s'est amplifié dans certaines métropoles d'Afrique subsaharienne depuis l'émergence de sectes diabolisant certains enfants qui sont alors accusés de sorcellerie par leur propre communauté. Et la question qui vous a été posée sur Facebook était « Que savez-vous de ces enfants stigmatisés ?» Alors, nous avons dans le studio une invitée, dans le studio 13 de La Voix de l'Amérique, VOA Afrique, Jeannette K. Le Guil, fondatrice de l'ONG ULOC, United for Love of Children, qui œuvre pour l'intégration sociale des personnes handicapées. Madame, bonjour et merci d'être avec nous.
Bonjour, je vous remercie.
Et nous devrions avoir aussi, peut-être en ligne, pas encore, mais dans tous les cas, nous devrions normalement contacter le professeur André Massiala Massolo, psychothérapeute, hein, qui est à Kinshasa, donc est concepteur et directeur du Centre congolais de l'enfant et de la famille. Donc voilà, nous continuons, nous tentons de le joindre toujours. Alors, Madame K. Le Guil, vous-même, plus en tant que personne, hein, comment vous prenez ce problème, ce phénomène d'enfants de la rue, ces enfants marginalisés, d'une manière générale, comment vous le ressentez ce phénomène dans certaines capitales africaines ?
Je vous remercie. C'est un fléau quand même assez grave. La situation est vraiment très grave. Vous avez dit tout à l'heure 30 millions d'enfants en Afrique. Et malheureusement, le nombre ne fait que s'accroître quand on connaît vraiment la précarité des conditions de vie. C'est une situation qui vraiment demande à ce que la société vraiment s'interroge sur les solutions pour remédier à ces fléaux.
Alors, nous avons eu beaucoup de réactions sur le Facebook de VO Afrique, beaucoup de réactions très très vigoureuses, je dirais, un petit peu comme d'habitude. Hein, c'est bien, les gens s'expriment. La question des enfants considérés comme des enfants sorciers, bah, c'est une question qui se pose effectivement. Les chiffres des enfants dans la rue, d'une manière générale, sont un petit peu peut-être exagérés, mais il faut savoir aussi qu'il est quasiment, il est très difficile de connaître les chiffres exacts dans tous les cas. Mais pour donner une idée sur la situation, hein, en prenant le problème d'une manière générale, l'Institut international des droits de l'enfant dit que les estimations font état d'environ 11 millions d'enfants des rues en Inde. Hein, c'est pour donner une idée du phénomène, hein, comme le disent certains de nos internautes, universel. 445 000 au Bangladesh, 250 000 au Kenya et 200 000 dans la ville-province de Kinshasa. Hein, on rappelle quand même qu'il y a 11 587 000 habitants à Kinshasa. Et ça, c'est un extrait des rapports des États présentés au Comité des droits de l'enfant. Et le Comité sur les droits de l'enfant, c'est le corps d'experts indépendants qui contrôle l'application de la Convention internationale des droits de l'enfant des Nations Unies par les gouvernements qui l'ont ratifié. Donc, vous, Madame K. Le Guil, dans ce phénomène, est-ce que vous êtes originaire de la Côte d'Ivoire? Est-ce que vous avez remarqué qu'une catégorie d'enfants en particulier est marginalisée, rejetée par une société et se trouve ainsi obligée de mendier dans la rue?
Oui, en effet, je suis de la Côte d'Ivoire et ce n'est pas une situation isolée, elle n'est pas unique à la Côte d'Ivoire. Tout à l'heure, vous avez cité certains pays, et si vous regardez un peu ce qu'ils ont en commun, c'est la pauvreté. Vous avez les pays, comme l'Afrique, l'Asie, où un bon nombre d'enfants se retrouvent vraiment marginalisés. Et revenir sur la question des enfants qui sont stigmatisés, vous avez principalement les enfants qui vivent avec un certain type de handicap. Et comme le handicap dans certains milieux est vu comme un aspect culturel, on se dit qu'il faut se débarrasser de comment on appelle ça, de ces enfants là. Moi-même, j'ai pour situer mon exemple, j'ai créé ULOC justement à cause de la situation de ma fille en fait que j'ai adoptée parce que c'était l'enfant de ma sœur. Et l'enfant, il se trouvait que 2 ans après, on a découvert que l'enfant avait un handicap et le mari a abandonné la femme. Et ma sœur, qui était très jeune à l'époque, elle était très mal à l'aise parce que la communauté voyait très mal un enfant de cet âge-là qui avait un nez vraiment assez, médiocre. Donc elle voulait l'emmener chez soi-disant des gens pour transformer cet enfant en serpent.
Alors justement, on dit que dans les enfants accusés de sorcellerie, c'est l'étude anthropologique des